France Culture.
Sur France Culture, à bientôt 9h, vous retrouvez vos informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Ouaknin, en vous souhaitant un très bon dimanche à chacune et chacun.
Mais tu le sais, il est revenu à la vie.
Vous êtes bien sur France Culture.
L'Esprit Public, c'est votre rendez-vous d'analyse de l'actualité.
Astrid de Villaine.
Quatre invités, intellectuels, auteurs ou experts, pour prendre du recul sur la semaine écoulée et approfondir les enjeux de nos sociétés.
L'Esprit Public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Je connais plein d'histoires. Je les confierai au micro le dimanche à 12h45 et vous aimerez peut-être écouter.
Ariel Wiesmann.
Un génie resté dans l'ombre, une idée improbable, le destin joue de la musique et la vie fait des entrechats. C'est ça, truculent, ou comment une histoire célèbre la force du singulier.
L'histoire truculente, ce dimanche à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, tout de suite. Le journal.
Le journal, Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. Vos journaux, ce matin, sont principalement consacrés à cette nouvelle guerre en Iran. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué dans les frappes israéliennes et américaines hier soir. Une mort qui signe la fin de plus de 3 décennies de règne brutal pour le peuple. Comment va s'annoncer sa transition ? Nous serons en direct depuis Téhéran. Avant d'aller aux États-Unis, où Donald Trump menace l'Iran d'une riposte militaire sans précédent en cas de représailles, le président américain veut voir le régime iranien s'effondrer et a confiance en son offensive. Et sur une toute autre note, à Paris, le musée d'Orsay met à l'honneur les peintres femmes. Nous nous y rendrons en fin de journal. L'Iran s'était préparé à tous les scénarios, y compris la mort d'Ali Khamenei. Selon le président du Parlement, le guide suprême a été tué dans les frappes israélo-américaines hier soir. Annonce d'abord faite par Donald Trump, puis confirmée par la télévision d'État iranienne. Bonjour Siavosh Ghazi.
Bonjour.
Vous êtes à Téhéran. Le régime assure que le processus de transition va débuter dès aujourd'hui.
Donc sa disparition est une perte importante pour le pouvoir iranien, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Un conseil de 3 personnes sera mis en place. Ce conseil comprend le président de la République, le chef du pouvoir judiciaire et un membre du conseil des gardiens de la Constitution, une sorte de conseil constitutionnel, un religieux. Donc ils vont diriger le pays, faire le travail que faisait le guide pendant un laps de temps, en attendant que l'Assemblée des experts qui réunit 89 religieux élus lors des élections, nomme un successeur officiellement. On ne sait pas à quel moment cette assemblée va se réunir, mais ça peut se passer très vite. Est-ce que la fonction du guide suprême va être préservée ou pas ? C'est aussi une question que tout le monde se pose, bien évidemment, alors qu'on est en situation de guerre et que le président Trump a demandé aux forces armées iraniennes de baisser les armes et donc de se rendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ces prochains jours seront bien sûr déterminants pour la suite des événements.
Siavosh Ghazi, depuis Téhéran, correspondant de RFI pour France Culture. Et si la transition s'organise rapidement, la question de sa succession n'a jamais été soulevée publiquement, car le guide suprême menait un règne absolu depuis 37 ans, Christian Chéneau.
Ali Khamenei était la clé de voûte du pouvoir iranien depuis qu'il avait succédé à l'ayatollah Khomeini en 1989. Même s'il n'avait pas le charisme du fondateur de la République islamique, il a fait preuve d'une grande habileté manœuvrière pour surmonter les crises et éliminer ses adversaires. En juin 1981, il avait été victime d'un attentat dans une mosquée de Téhéran au cours duquel il avait perdu l'usage d'un bras. Pour consolider son autorité, il s'est appuyé sur les Pasdaran, les gardiens de la révolution, qui contrôlent des secteurs clés de l'économie ou encore le programme balistique et nucléaire iranien. Il avait la haute main sur les services de sécurité et la justice. Né à Mashhad, Ali Khamenei a étudié au séminaire religieux de Qom, mais ce n'était pas un haut membre de la hiérarchie du clergé chiite. homme secret, le guide suprême, ne donnait jamais d'interview, ne voyageait pas à l'étranger et ne rencontrait que quelques rares chefs d'État comme Vladimir Poutine ou Bachar el-Assad quand celui-ci était encore au pouvoir à Damas. Obsédé par les complots internationaux contre l'Iran, il était coutumier de diatribes contre les États-Unis et Israël qualifiés de puissances diaboliques et arrogantes. À contre-cœur, il donnera son feu vert aux négociations sur le nucléaire avec les grandes puissances, puis avec les États-Unis de Donald Trump. Tout au long de son règne, Ali Khamenei a donné la priorité à la survie de la République islamique. Il n'a pas hésité à réprimer dans le sang la contestation, comme on l'a vu en janvier dernier. Jusqu'au bout, il a tenu à montrer qu'il n'était pas prêt à capituler face à la puissance militaire américano-israélienne, quitte à mourir sous les coups de ses ennemis.
Les autorités iraniennes ont décrété 40 jours de deuil en hommage à la mort du guide suprême. Et en cas de représailles, l'Iran sera la cible d'une riposte militaire sans précédent, a annoncé Donald Trump dans son dernier message. Le président américain affiche toute sa confiance et n'a aucun doute sur l'efficacité de l'offensive contre l'Iran. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Donald Trump fait le pari que le régime va s'effondrer et que le peuple va s'emparer du pouvoir.
Oui, c'est la stratégie du président américain. Donald Trump se montre convaincu que le régime iranien va s'effondrer, en particulier après la mort du guide Ali Khamenei. Le président américain assure que de nombreux membres des gardiens de la révolution, de l'armée iranienne, sont prêts à se rendre et il confirme le but de la guerre, préparer la prise du pouvoir par le peuple. Un processus qui devrait bientôt commencer, estime Trump. Il annonce que la campagne de bombardement va durer toute la semaine ou aussi longtemps que nécessaire. Le président américain ne donne aucun détail sur l'étape suivante. À ce stade, il s'agit surtout de démontrer la puissance des États-Unis. Dans une série de photos publiées par la Maison-Blanche, Donald Trump s'affiche en chef de guerre de cette opération baptisée Führer épique. On le voit assis autour d'une table, le visage grave avec ses proches conseillers, une carte du Moyen-Orient en arrière-plan, quelques messages, des photos, pas de conférence de presse. Donald Trump fait l'économie de longues explications pour justifier le déclenchement de cette guerre dont personne ne connaît encore les conséquences.
Et depuis le début de cette nouvelle guerre, le Moyen-Orient est en état d'alerte maximale. La riposte iranienne sur les bases militaires américaines hier dans les pays arabes du Golfe a eu pour effet de les souder contre Téhéran. Frédéric Seiss de la rédaction internationale de Radio France.
Oui, oubliez les tensions de ces dernières semaines entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, oubliez les rivalités entre le Qatar et Bahreïn, tous unis contre l'Iran après les tirs de riposte de Téhéran, tirs de drones et de missiles vers les pays arabes qui accueillent des bases américaines. Le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite disent avoir intercepté de nombreux projectiles iraniens. La diplomatie saoudienne condamne des attaques iraniennes lâches. Les Saoudiens se disent prêts à riposter militairement. Mais ce sont les Émirats Arabes Unis et Bahreïn qui ont été le plus sévèrement visés par l'Iran. À Dubaï comme à Manama, des immeubles résidentiels ont été frappés par des drones kamikazes iraniens. Est-ce un hasard? Les Émirats et Bahreïn, ce sont les deux seuls pays du Golfe qui ont établi des relations avec Israël. C'était en 2020, les accords d'Abraham signés sous la houlette des États-Unis.
Et finalement, l'Iran n'a pas trouvé beaucoup de solidarité au sein du monde musulman.
Non, c'est vrai, les soutiens se font rares. Alors il y a l'Irak, pays à majorité chiite, tout comme l'Iran, qui a dénoncé, je cite, « l'agression injustifiée menée par Israël et par les États-Unis ». Le Pakistan s'est aussi placé du côté de Téhéran, mais pour le reste, de nombreux États ont refusé de choisir, à l'image de l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, qui appelle à la désescalade et qui se propose comme médiateur. À noter aussi les mots très durs du Maroc contre l'Iran. Dans un communiqué, la diplomatie marocaine fustige, je cite, « l'abjecte attaque iranienne ». Le Maroc, qui est le seul pays du Maghreb à avoir normalisé ses relations avec Israël.
Et l'Irak a décrété ce matin 3 jours de deuil en hommage au guide suprême iranien Ali Khamenei, mais n'a pas affiché plus de soutien. Le porte-parole du gouvernement a appelé à une cessation immédiate des opérations militaires qui, je cite, « entraîne la région vers des niveaux de violence sans précédent ». Déjà 2 morts en Arabie Saoudite suite aux bombardements iraniens. Au Pakistan, une manifestation pro-Iran à un consulat américain a fait 8 morts. Et sur un tout autre sujet, un musée met les femmes peintres à l'honneur, souvent présentées dans le cadre. Elles n'étaient pas pourtant que des muses ou des sujets. Au musée d'Orsay, à Paris, il est possible d'en découvrir ou d'en redécouvrir certaines en ce moment. Ces artistes sont exposés au deuxième étage, notamment dans les salles 69, dédiées aux paysages et portraits, réalisées autour des années 1900. Un reportage de Marion Ferrer.
9 des tableaux accrochés dans cette salle ont en effet été peints par des femmes à la fin du 19e siècle et au début des années 1900.
Donc là, vous voyez par exemple 3 tableaux d'Olga Bosmanska, de même pour Béatrice Rowe. Vous voyez aussi une œuvre d'Edith Starkey.
Des artistes dont le parcours a été difficile, comme le confirme Leïla Jarboué, conservatrice en chef peinture et art graphique au musée d'Orsay. Elle est aussi en charge des accrochages des œuvres.
Puisque le parcours académique leur a été fermé jusqu'en 1897, en France, les femmes n'avaient pas accès à l'école des beaux-arts. Elles étaient beaucoup moins primées aussi que les hommes. Donc elles ont suivi souvent leur propre chemin en lien avec des mouvements artistiques, mais de manière peut-être plus indépendante finalement.
Des femmes dont les peintures ont été oubliées, écartées au fil des années.
C'est surtout au XXe siècle finalement qu'elles ont été effacées. Donc l'histoire des avant-gardes les a un peu effacées. Une succession de grands génies masculins. Pas vraiment de place aux artistes qui n'étaient ni académiques, ni dans les avant-gardes.
Difficile donc de les associer à des mouvements précis, mais pas question pour la conservatrice de réduire ces artistes uniquement à leur genre. Pour les exposer, il faut donc composer avec les salles thématiques moins contraignantes.
Les mélanger aux hommes de leur temps avec qui elles exposaient. Ainsi, par exemple, Eugène Carrière, dialogue avec Béatrice Rowe. Ils exposaient ensemble, ils étaient proches. Olga Bosmanska, dialogue avec Vuillard, qu'elle appréciait beaucoup. Et créer des dialogues entre les œuvres.
Le musée d'Orsay compte également enrichir sa collection, car actuellement, seulement 2% de ses peintures ont été réalisées par des femmes.
Et un mot du temps pour finir en France. Le temps sera assez gris ce matin sur le nord-est et de la pluie sur la pointe bretonne. Le reste du pays sera sous le soleil. Côté température, elles iront entre 6 et 13 degrés.